L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté. Avec lui, nous allons parler du contexte régional, continental et international dans lequel s'est tenu le Forum africain des entreprises et des droits de l'homme à Addis Abeba, en Éthiopie. Ce forum s'est concentré notamment sur les liens entre la mise en œuvre des principes directeurs de l'ONU et l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le Forum africain des entreprises et des droits de l'homme 2023 s'est tenu les 6 et 7 septembre à Addis Abeba, en Éthiopie. L'événement a rassemblé des parties prenantes de toute l'Afrique pour promouvoir des droits de l'homme et la responsabilité des entreprises dans la région. Le forum a été convoqué par l'Union africaine et co-organisé par différents organismes onusiens, en étroite collaboration avec les acteurs locaux et régionaux, continentaux et internationaux. Le thème du forum était « Pour l'Afrique depuis l'Afrique », ce qui reflète l'importance des perspectives et des solutions locales dans l'effort collectif visant à mettre en œuvre des politiques de développement souveraines. En ce qui concerne sa contribution à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLICAF, le forum s'est concentré d'abord sur les liens entre la mise en œuvre des principes directeurs de l'ONU et l'opérationnalisation de la ZLICAF. En outre, le forum a cherché à générer des solutions innovantes adaptées au contexte unique du continent africain, en mettant en lumière les voies et les perspectives africaines. Il a mis l'accent sur la manière africaine de mettre en œuvre les principes relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme approuvés à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2011. Alors, pour parler du rôle des institutions internationales dans le développement de l'Afrique et de toutes les questions fondamentales qui l'entourent, j'ai le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Merci beaucoup, Monsieur Kamal.
C'est moi qui vous remercie et tout le plaisir est pour moi, pour Spoutnik et pour tous les auditeurs de Spoutnik et de Maliba FM à Bamako. Bien, alors la première question, comme ce n'est pas la première édition de ce Forum des entreprises des droits de l'homme 2023, comme on voit que le titre est assez, brillant et un peu, il a un peu même l'effet feu d'artifice. Mais il y a quand même une question de méthodologie qu'on doit se poser au début. Alors, Monsieur Diabaté, peut-on dresser un bilan des réalisations des précédents forums et en quoi le contexte dans lequel s'est déroulé ce forum diffère-t-il de celui des années précédentes?
Merci beaucoup, M. Gamal, pour la question. Je salue tout votre studio et vos camarades et tous les auditeurs. Et en fait, ce forum, on dirait, comme les Français disent, du déjà vu. Parce que la composition même du forum nous fait penser que c'est une formalité. Comme vous avez rappelé tout ce dans votre question, vu le forum précédent et les résultats entre guillemets, soi-disant, réalisés de ces précédents forums, nous donnent clairement l'idée que c'est une formalité et c'est une manière déguisée de continuer à nous maintenir dans les conditions de dépendance qui ont toujours été la tâche principale des Nations Unies et de tous les autres systèmes affiliés à ces structures Quand vous voyez ici, les transnationales dont on fait mention ici comme participants, les grandes sociétés transnationales, les sociétés internationales, les sociétés locales, ainsi de suite, qui sont mentionnées juste pour une formalité, pour une question d'honneur, parce qu'ici, ils ne décident rien et ils n'en décideront rien, parce que quand nous parlons des droits de l'homme, les activités des entreprises, les effets négatifs de ces activités, surtout le secteur industriel, le secteur d'exploitation des minerais africains, c'est eux-mêmes qui sont les premiers perpétrateurs de tous les maux dont souffrent les populations locales africaines. Et c'est les transnationales qui sont beaucoup plus puissantes que nos pays très souvent. Et ils sont tellement habitués à soumettre nos dirigeants qu'on est en train de faire une question de... comme dans le jargon local, on dirait qu'ils sont en train de laver notre visage, c'est-à-dire faire semblant de jouer pour nous, alors qu'il s'agit encore davantage...
Et c'est un concept quand même très important que vous venez d'annoncer. Cette question-là des entreprises, disons, avant c'était des entreprises d'État en particulier, des États occidentaux, après elles se sont transformées en entreprises multinationales, mais maintenant elles sont transnationales, et c'est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus caché, parce qu'en réalité, non seulement en Afrique, où ils ont l'habitude de se comporter comme des rois, mais actuellement, même en Occident, même dans les pays du Nord, ces sociétés transnationales captent pratiquement toute la richesse des pays et des peuples. Et donc, s'ils n'ont pas eu un peu de décence par rapport à leur population dans le Nord, je ne vois pas, moi, franchement, comment ils penseraient aux populations africaines.
Absolument, mon ami. Comme d'habitude, vos questions sont tellement pertinentes qu'il m'est très facile, et il serait très facile à n'importe qui de répondre. C'est comme un geôlier ou un barreau, un criminel qui joue au rôle de juge, d'avocat et de procureur en même temps. Et il ne cesse pas de nous ridiculiser, de nous infantiliser à ces histoires de forums. D'ailleurs, quand vous voyez les sponsors réels de ces forums, par exemple le département des affaires étrangères du Danemark ou bien de certaines sociétés qui eux-mêmes sont cofinancées par les transnationales, parce que comme vous l'avez dit maintenant, elles se déguisent très souvent, elles opèrent à travers beaucoup d'États où ils sont, d'où ils sont d'origine. Donc maintenant, on fait croire aux Africains qui se soucient des droits de l'homme chez nous. Et je vous dis, M. Gamal, que il y a certaines catégories de mines pour les extraire dans les pays développés. Souvent, les droits environnementaux, très souvent, sont payés même à l'avance. Oui. Mais une fois en Afrique, c'est les droits qui ne sont jamais payés. Ils ont infantilisé nos gouvernements au point même que même le pourcentage qu'on annonce ou bien qu'on annonce que nos gouvernements doivent gagner, ils n'en gagnent pas. Même le volume de production, très souvent, nos gouvernements se limitent seulement à ce que ces mines leur communiquent. Parce que le contrôle réel n'existe pas à cause de la corruption, à cause des systèmes qu'ils ont déjà mis sur place, qui font que même les agents gouvernementaux qui doivent faire ce suivi, très souvent, quand ils arrivent sur le site, ils trouvent que la conclusion de leur audit, de leur visite, est déjà prête avec leur enveloppe. Et il ne fait que mettre la signature là-dessus et on nous fait passer ça pour, je ne sais pas, des documents, des rapports, alors que c'est très, très, très ridicule. La composition même de ce forum déjà montre le rapport de force, que nous ne sommes que des accompagnateurs.
J'aimerais bien passer maintenant aux choses de fond. Donc là, c'est le prétexte, c'est ce forum, et ainsi de suite. Voilà, on va faire les droits de l'homme, on va développer l'Afrique, on va faire intégrer les entreprises dans ce développement, patati, patata, alléluia, alléluia, alléluia.
Absolument,
voilà.
Absolument.
Alors maintenant, passons aux choses sérieuses et en parlant de fond. Alors,
oui.
Monsieur Diabaté, vous, en tant que spécialiste de géopolitique, aujourd'hui, oui, Le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. La cause étant que certains membres occidentaux de l'ONU ont tenté de remplacer le droit international et la charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles, les règles du jeu, les règles de la démocratie, les règles de ceci, de cela, du marché, et ainsi de suite. Et ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes entre les pays d'une manière équitable et souveraine. Voilà, ils sont en domination. Alors, dans cette optique, les organisations internationales, donc, comme l'ONU, le Conseil de sécurité, qui en principe sont des personnes morales de droit public créées par le traité entre les États souverains, sont devenues des outils de la gouvernance globale au service des puissances de l'argent néolibéral occidental, et ce depuis 1991, suite au démembrement de l'Union soviétique. Et on peut citer le cas que la majorité des gens connaissent actuellement comme le cas de l'OMS, avec Bill Gates, qui est devenu le patron de l'OMS dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Et c'est un cas qui est extrêmement flagrant et que tout le monde a vu. Alors, moi, ma question, est-il encore judicieux pour les pays africains de continuer à attendre que l'ONU, comme vous l'avez dit tout au début, fasse quelque chose pour eux, ou est-il préférable qu'ils apprennent à voler de leurs propres ailes en prenant courageusement entre leurs deux mains leur destin?
Excellente question, M. Gamal, comme toujours. Vous avez très bien brossé le problème. Le cas Bill Gates, pour le rappel, au début de ce fonctionnement, le gouvernement couvrait pratiquement 90% des besoins de l'OMS. Mais aujourd'hui, les structures privées comme le Bill Gates Fund, Bill Gates et Melinda Gates et d'autres sociétés de ce genre en couvrent jusqu'à 70%. Alors que nous savons tous l'adage qui dit que celui qui paye commande la musique.
C'est ça, c'est ça.
Donc, qu'est-ce qu'on pense qu'ils arrêtent de nous infantiliser, nous les Africains.
Oui.
Et que nos chefs d'État et de gouvernement cessent de nous infantiliser, qu'ils ne nous fassent pas perdre du temps. Et comme vous avez ce qui est le contexte géopolitique, c'est le basculement géopolitique mondial, global, irréversible à nos jours, qui fait que c'est comme une autre entreprise encore, une autre tentative par l'Occident, en rentrant par d'autres voies, de se faire des racines, de s'enraciner davantage chez nous, en se faisant couvrir par cette histoire des droits de l'homme. Comme j'ai déjà énoncé en haut et vous l'avez renforcé. Et en fait, si on devait, à la lettre, M. Gamal, juger les droits de l'homme comme c'est énoncé, le premier criminel qui devait se retrouver à la CPI, c'était les transnationales et leurs marionnettes qui sont les États occidentaux en premier lieu. Parce que 90, sinon à la majorité, sinon à la totalité, ces États œuvrent pour l'ère transnationale à travers qui ils veulent faire mainmise sur le monde entier. Malheureusement pour eux, l'éveil des populations des pays jadis sous domination fait tel qu'on n'attend plus nos dirigeants pour prendre des décisions. Nous-mêmes, nous sommes devenus maintenant des forces lobbyistes. Dans le bon sens, pour faire prévaloir les intérêts de nos populations locales, le seul moyen, parce que nos dirigeants sont tellement sous emprise, sous pression de ces transnationales à travers leurs États, en premier lieu les Nations Unies, parce que comme vous l'avez bien mentionné, les Nations Unies aujourd'hui, elles n'existent que de nom, soit elles servent les États-Unis et ceux qui plairont aux États-Unis, soit on fait passe d'eux et on a tendance chaque fois à faire remplacer les Nations Unies dans les prises de décision par des structures comme l'OTAN. Et d'ailleurs, si vous remarquez, depuis la guerre d'Irak jusqu'à aujourd'hui, très souvent les décisions ne se prennent plus aux Nations Unies, on s'en fout éperdument. Il s'agit que l'OTAN, avec leur grand-père, les États-Unis, décident de quelque chose et on le fait passer comme une décision de la communauté internationale. C'est cette notion de communauté internationale aujourd'hui que les intellectuels ont du mal à définir.
Juste le Conseil de sécurité, quand on voit qu'un pays comme la France de 60 millions a le même droit qu'un pays d'un milliard et demi comme la Chine, sachant que l'Europe est représentée par deux, c'est-à-dire il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, il y a les États-Unis, il y a la Russie. Et il y a la Chine. Donc, deux pays de l'Europe qui ne font même pas, je ne sais pas, même pas le 1/10 de la population de la Chine. Et je ne dis pas de toute l'Asie, parce que si on prend actuellement, y compris de point de vue démographique et de point de vue de la puissance économique et militaire, l'Inde, il a toute sa place dans ce Conseil de sécurité.
Absolument, M. Gamal. Et ce que vous ne devez pas oublier, en tant qu'Africains et tous, tout un continent de plus d'un milliard n'a pas son droit au Conseil de sécurité.
Absolument.
Bien que tout récemment, la Russie a insisté là-dessus, et le secrétaire général des Nations Unies, rien que la semaine passée, étant obligé à faire semblant de reconnaître cette nécessité, qui est une intervention de l'Afrique dans ces structures. Mais moi, je pense que, M. Gamal, cette structure n'a pas de futur en réalité. Et d'ailleurs, si
en
je dois revenir à ce
forum... En tout cas, dans son format actuel, si elle n'est pas réformée...
Elle n'a pas d'avenir dans son format actuel et ça ne fonctionne même pas. Parce que ces jeux-là sont tellement maintenant au ciel ouvert et la population est tellement éveillée dans le monde... d'aujourd'hui, tellement médiatisé avec les réseaux sociaux et tout, qu'ils ont du mal à faire passer leur mauvais jeu. Et d'ailleurs, quand vous voyez ici, vous allez voir dans le cadre de ce forum, on dit bel et bien déterminer les opportunités d'intégrer les principes directeurs des cadres régionaux et sous-régionaux de gouvernance, d'exploiter les principes directeurs des Nations Unies. Jusqu'à présent, on nous marie en notre absence, en notre consentement, à notre insu. Vous comprenez? Donc, c'est le principe des Nations Unies, sachant que les Nations Unies, c'est l'instrument
des sociétés transnationales
qui a été conçu pour faire soumettre les pays en état, en particulier nous, notre continent. Et c'est ces mêmes structures-là qui sont avec des principes directeurs qui veulent faire intégrer en Afrique. Et pourquoi faire? Pour davantage nous enfoncer. Et là, je conseillerais aux Africains en général, mais aux dirigeants africains en particulier, de finalement se réveiller et comprendre que nous devons marcher de notre propre pied. Nous devons voler de nos propres ailes et personne ne va connaître nos besoins cruciaux, vitaux, nationaux, sociaux, que nous-mêmes. Et tout ce qu'un étranger pourrait dire de nous ne peut être que de pérenniser ses intérêts dans nos pays et dans notre continent. Et qu'on ne se lève pas, qu'on ne se fait pas perdre du temps.
Alors, la troisième question, M. Diabaté. Depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine en février 2022, les règles du jeu changent à très grande vitesse.
Oui.
Alors,
oui.
Aussi bien en termes géopolitiques et géoéconomiques, en termes de mode de gestion et d'évolution des organisations internationales. Ainsi, comment peut-on analyser les tendances lourdes actuelles dans la gestion des affaires du monde? Le monde multilatéral des BRICS, dont les BRICS sont l'une des forces motrices, mettra-t-il fin, à votre avis, au globalisme et à ses relais au sein des organisations internationales et qui ont complètement soumis ces organisations, comme vous l'avez dit à juste titre, au point où elles ont perdu leur vocation complètement, on ne sait plus pourquoi elles existent. Et à votre avis, quelles sont les opportunités qui s'ouvrent aux pays du Sud, notamment africains, pour se soustraire justement aux griffes du système global occidental?
Merci, M. Tamar. Des opportunités incroyables, mon frère. C'est des opportunités épochales, comme les Russes diraient. C'est-à-dire, ce qu'on n'avait jamais songé, j'ai dit que c'était facilement géopolitique, c'est des choses qui se passent peut-être une fois des centaines d'années. Et ce sont des opportunités, sinon même une opportunité à ne pas rater pour l'Afrique si elle peut, elle veut encore avoir une quelconque chance dans cette existence. Pourquoi? Parce que l'Occident est tellement en désarroi, en dérive, en perdition des directions, qu'on a l'impression parfois qu'ils ont arrêté de raisonner. Je ne sais même pas où sont leurs géostratèges, ou bien c'est cette arrogance-là, depuis des dizaines de siècles, les cinq derniers siècles de domination, qui font qu'ils sont devenus myopes. Ils n'y voient plus clair, ils ne peuvent plus changer leur position de maître, de patron, et pour s'adapter à la situation géopolitique actuelle. Donc, j'ai dit qu'en passant, si on me demandait, si on me consultait, j'ai envie les Occidentaux à la tête des États-Unis, qu'est-ce qu'ils devaient faire dans cette situation? J'allais leur conseiller en choc de faire ce que j'appellerais la géo-adaptation, M. Kamal. C'est-à-dire, et ils ne peuvent plus changer le cours des choses, comme vous l'avez mentionné. Les forces sont tellement en ébullition. C'est un mouvement qui est instoppable. Et ces agitations de tentatives encore de forcing, ça ne va faire qu'aggraver la situation pour eux. Donc, le djinn est sorti du sac. Il s'agit maintenant de l'amadouer. Et au lieu d'essayer de forcer, parce qu'ils n'ont plus la mainmise ou bien le contrôle de la situation en réalité, quelle que soit leur volonté de prétendre encore avoir la force nécessaire pour faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire, les faits sont très, très têtus et les opportunités sont là pour nous, les Africains. Parce que comme les Chinois disent toujours, quand des fauves se battent, alors que tu peux être la victime, tu te tiens là-bas sur l'arbre avant qu'ils s'entretuent. Et après, tu descends librement et tu te nourris. Mais dans ces cas, nous devons aller avec les BRICS. Les BRICS, en réalité, c'est le gilet de sauvetage pour tous les pays qui veulent réellement jouir de ce qu'on appelle leur souveraineté nationale, ceux qui veulent un peu profiter de cette opportunité de s'épanouir indépendamment dans la mesure du possible. Une opportunité pour nous, les pays qui sont en retard, un retard prémédité, vous savez très bien par qui et pour combien de temps. Et parce que ceux-là même qui étaient les maîtres du monde aujourd'hui se cherchent économiquement. Vous savez ce qui se passe en France aujourd'hui, ce serait dans un autre pays africain, on aurait l'appelé tout simplement la guerre civile.
Oui, oui, actuellement, les chiffres qui sont sortis hier,
des experts soi-disant français dire qu'ils préfèrent mourir que de quitter le Niger. Il y a beaucoup de mes compatriotes ici qui me posent la question étonnée. Mais pourquoi ils disent ça? Je dis, mais ces experts-là, ils sont plus ou moins honnêtes. Ils veulent tout simplement, indirectement, dire jusqu'à quel point la France dépend du vol des ressources de l'Afrique. Avec la perte du Mali, le Burkina, maintenant le Niger, et le symbole que ça envoie au reste de l'Afrique, l'Occident ne peut plus se couvrir derrière ses relais locaux parce qu'ils n'ont plus de force. Donc, ils sont obligés de sortir maintenant. Mais en sortant, jusqu'à présent, ils portent encore des masques. Et c'est à travers d'instrumentaliser nos organisations africaines et régionales, comme l'Union africaine et puis la CEDEAO. D'accord. Mais je leur fais un pronostic très, très, très décourageant. C'est-à-dire que rien ne va marcher dans ce sens. Et je reviens encore à ma proposition d'aller dans le sens de ce que j'appellerais la géo-adaptation. Quand vous ne pouvez pas changer une situation, vous devez avoir l'intelligence, la sagesse de s'adapter à la situation pour en profiter, pour se couvrir des effets négatifs que ce mouvement naturel pouvait leur causer.
Bien, alors une dernière question pour cette première partie, Adama Diabaté. Alors, l'utopie, disons les choses comme elles sont, mondialiste est de plus en plus déconnectée des réalités, c'est ce que vous venez d'expliquer maintenant, d'un monde devenu multilatéral, et ces valeurs sont-elles universellement rejetées? Je prendrai l'exemple, par exemple, les droits LGBT et compagnie en Afrique. C'est même pas la peine de venir parler de ça. Bien. Alors, la multilatéralité rétablit de plus en plus les États dans leur rôle d'acteurs principaux du système international. Alors, dans ce contexte, M. Diabaté, comment analysez-vous cette tendance en Afrique, notamment dans la région du Sahel? Cette nouvelle dynamique peut-elle ouvrir de nouvelles possibilités à ces États de mettre en place des politiques de développement à marche forcée, de grande envergure, et dans lesquelles les entreprises privées pourraient trouver des espaces pour leurs activités dans le but d'augmenter le niveau de vie des gens, les droits de l'homme et ainsi de suite, sans aller perdre leur temps dans des forums où on n'en tire pratiquement rien du tout.
Absolument. Et M. Gamal, comme d'habitude, vos questions sont très bien formulées. Je vous ai dit tout précédemment que c'est une perte de temps, cette histoire des forums. Ces chefs d'État, ces États, et là, je ne fais plus la différence en Afrique, et on est obligé, entre les chefs d'État, le gouvernement et les peuples. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous nous engageons tous. Parce qu'avec 500 ans de passé, on a vu que les seuls dirigeants ne pouvaient rien. D'ailleurs, ce n'est pas nos dirigeants, c'est les gens qui ont toujours été imposés par l'Occident. Ces 60 dernières années en Afrique, selon certains experts, ils disent qu'il n'y a eu que des élections honnêtes, transparentes, et tout ça là, c'était sous des transitions militaires. Sinon, tout le reste, c'est des candidats qui ont été joliment, poliment, sous couverture, d'une manière ou d'une autre, imposés par les maîtres extérieurs à nos continents. Donc, comme j'ai dit précédemment, nous sommes condamnés, M. Kamal, à mettre sur place ces structures qui pourront permettre aux entreprises, surtout locales, de s'épanouir. D'ailleurs, il y a hier, il y a eu cette tentative dans mon pays, le Mali, dans le cadre minier. On a fait l'audit, on s'est rendu compte de ces vols et de ces voitures tellement désastreuses. Et on a changé le code. Désormais, les mines maliennes doivent briller pour la population malienne. En tout cas, faisant, on a changé le code aujourd'hui. Et toute structure internationale qui veut investir dans les mines chez nous, vous devez travailler conjointement avec des copropriétaires locaux et qui doivent avoir, comme c'est le cas à Dubaï, et le Niger en a commencé, et le Mali en suit maintenant, 51%. Ça, c'est d'un de deux. Aujourd'hui, au lieu de 10% dans beaucoup de mines chez nous, des 10% même qui ne sont que sur les déclarations de ces mêmes voleurs, maintenant, c'est 35% qui va à l'État. Et là, ça, c'est un pourcentage intermédiaire. Et l'État est en train de mettre sur place des structures financières qui pourraient financer les investisseurs locaux à pouvoir investir dans les domaines qui étaient réservés aux Occidentaux ou bien aux grandes transnationales, faute de moyens financiers pour entreprendre dans de tels domaines. Donc, pour répondre à votre question encore une fois, nous sommes littéralement condamnés, et je suis sûr que M. Gamal, nous le faisons déjà, mais c'est des choses qui prennent du temps, et nous allons continuer à le faire, parce que l'éveil de la population est tel que l'Occident encore dort et ils n'ont pas réalisé. Nous allons tout faire. On ne demande pas de quelqu'un de l'aide. Il n'existe même pas de l'aide. Ceux qui ont joliment appelé de l'aide, c'était une couverture pour cacher leur vol à ciel ouvert qui s'est passé ici ces 50 dernières années. Donc, on est condamné, que ce soit les dirigeants, que ce soit les populations africaines, d'ouvrir les yeux et d'entreprendre toutes les mesures, mettre sur place toutes les structures possibles, de s'intercommuniquer localement, j'ai envie, inter-africain, et mettre des conditions pour que quand, parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie, fermée, mais maintenant il faut créer des conditions pour que quand les transnationales viennent, en s'adaptant à ces règles et à ces règlements, les résultats de ces systèmes d'exploitation puissent en quelque sorte profiter aussi aux populations locales, aux entreprises locales, et en fin de compte, pour qu'il y ait passation de know-how, pour qu'il y ait passation de capacités financières qui permettront à ces entreprises locales de pouvoir opérer, d'avoir plus ou moins d'indépendance financière les permettant d'opérer dans ces domaines qui étaient la charge cachée et fait sciemment de ces entreprises internationales parce que les entreprises locales n'avaient pas les moyens financiers de s'engager dans ces domaines. Donc on est condamné, et encore à communiquer entre nous, on est condamné à mettre sur place des sociétés qui vont nous permettre d'être indépendants dans les domaines, dans les secteurs vitaux pour l'existence de nos États et le bien-être de nos populations.
Alors, chers amis, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mon invité Adama Diabaté pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le géopolitologue malien Adama Diabaté. Adama Diabaté, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience.
Merci évidemment pour l'invitation.
Je vous en prie. Bien. Alors, maintenant, allons un peu encore dans le fond, mais avec un peu plus de précision. Alors, la France a porté la plume sur tout le sujet qui concerne ses anciennes colonies au Conseil de sécurité depuis leur indépendance. Mais le pays dont vous êtes issu en août 2022, le Mali a porté plainte auprès du Conseil de sécurité pour actes d'agression, de subversion, de déstabilisation et de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs des forces armées françaises. Et après cet incident, les autorités maliennes ont alerté aussi à deux reprises la communauté internationale sur les actes hostiles de la France, mais malheureusement, tout ça en vain. Parce que le Mali n'a pas été autorisé à venir au Conseil de sécurité pour étaler toutes les preuves qu'il a cumulées par rapport aux accusations qu'il a portées contre la France. Bien. Alors, il y a ici une question légitime qui vient, et je vais la poser directement. À quoi servent encore les institutions internationales dans ce cas? Puisque tous les pays ne peuvent pas avoir les mêmes droits, le même droit à l'expression. Et peut-on encore parler de droit international et des droits de l'homme? Et pour convaincre les pays du Sud, M. Adama Diabaté, notamment les pays africains, le changement ne devrait-il pas commencer par le FMI, la Banque mondiale, l'OMS et l'OMC et le Conseil de sécurité?
Merci Gama pour vos questions. Comme on l'a dit précédemment, ces systèmes de Bretton Woods n'ont pas leur place dans leur format actuel. Les dernières institutions dont vous venez de citer, l'FMI, la Banque mondiale et d'autres sociétés soi-disant appelées à promouvoir le développement économique, le bien-être de nos populations et ce qui s'ensuit, ce sont des instruments cachés, comme on l'appelle dans le monde des spécialistes, des killers économiques. Ce sont des killers économiques dans la main de l'Occident, à la tête des États-Unis, la structure de l'OTAN et les pays affiliés. Et nos frères africains du Sud, en général, les Africains en particulier, devaient comprendre ça depuis longtemps. Et je sais qu'ils en savent quelque chose. Donc, espérer quelque chose de ces sens, c'est inutile. Et le changement, effectivement, devait commencer par le traitement de nos pays par ces structures de killers. Le FMI, ces réformes structurelles partent dans tous les pays qui ont eu à passer par cette voie, qui souvent est très, très souvent, sinon même tout le temps imposée. Ils sont toujours allés à leur péril. Le FMI, comme le système de casque bleu, ou bien la Banque mondiale, n'ont jamais sauvé un pays. Je m'explique. Des sapeurs pyromanes. On crée des problèmes, on se porte solution à ces problèmes pour venir pérenniser ces mêmes problèmes. Mm-hmm. Et cela a toujours été le cas. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi ils ont été mis sur place. Il faut que nos compatriotes soumis, nos Africains, les gens du Sud en général, les pays du Sud, en particulier les Africains, comprennent ça. C'est tous ceux-là qui sont sous domination française. Monsieur Gamma, je vais vous dire la particularité de la colonisation anglo-saxonne et de la colonisation française. Très souvent, vous voyez que c'est dans les pays colonisés par la France qu'il y a le plus de coups d'État. Ce n'est pas par amour de stabiliser ces structures. Ce n'est pas par amour de violence ou quoi que ce soit. Ça émane directement du fond, du système que la France a imposé sur ces pays. C'est-à-dire un système tellement mesquin, un système tellement oppressif que la population en a eu marre et elle est prête maintenant à toutes sortes de sacrifices pour s'en débarrasser. Donc, la première des choses qu'on devait faire, c'était de venir à la conclusion, à la compréhension que le système des Nations Unies, surtout le vecteur économique, soi-disant, j'ai envie, le FMI, la Banque mondiale, d'autres structures, soi-disant, le PNUD et tout ce qui s'ensuit, ils sont là pour nous maintenir dans la dépendance le plus longtemps possible. Maintenant, ayant fait ce diagnostic, nous ne devrons plus avoir de problème de prescrire les médicaments nécessaires pour soigner cette maladie. Et ces médicaments doivent venir de nous-mêmes. Je répète encore, nous devons créer des conditions nécessaires pour que nos ressources au maximum profitent à nos populations, quel que soit l'exploitant. Ça peut être local, ça peut être international, ça peut être mixte, appelez comme vous voulez. Et non seulement mettre ces structures sur le plan juridique sur place, mais être prêt à les défendre parce que les Occidentaux ne vont pas nous faciliter la tâche parce qu'ils vivent de ça. Ils vivent de ça.
Et je rappelle par rapport à ça, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu les militants africains qui cherchent l'épanouissement de l'Afrique dire que nous sommes dans une logique de guerre contre l'Occident, pas du tout, mais ils demandent à ce que leur pays et leur souveraineté et leur désir de développement souverain soient respectés. Rien d'autre. Alors, tout le monde est le bienvenu, mais à condition que les règles du jeu changent et qu'elles changent au profit de tout le monde.
Exactement, M. Gamal. C'est ce que tout récemment, j'ai donné une interview à vos collègues américains, les premières chaînes, sans leur faire de la publicité. Et c'était 3 heures d'interview et j'étais très clair là-dedans. J'ai dit, en fait, ce que vous appelez anti-occidentalisme ou bien anti-français ou quoi, c'est une manipulation intentionnée pour que la population n'aille pas à l'encontre de votre politique très malsaine que vous menez ici et que vos populations locales ne s'en rendent même pas compte. Sinon, on n'est pas contre quelqu'un comme vous venez de mentionner. On est contre une politique qui a été menée...
Le système néocolonial. Après avoir été contre le système colonial, les gens sont contre le système néocolonial.
Oui. Donc, et c'est ce système néocolonial que la population africaine, ce n'est pas les dirigeants. Non, ils ne peuvent pas et ils ne pouvaient pas. Et d'ailleurs, j'ai dit dans mon interview avec vos collègues américains, j'ai dit que ne vous attaquez pas à nos présidents et à nos ministres de la Défense. Aujourd'hui au Mali, ce n'est pas Sadio Camara le ministre de la Défense. D'ailleurs, que les Américains ont essayé de prendre des sanctions. La dernière fois qu'on était à Moscou, j'ai bel et bien dit à notre ministre, Monsieur le ministre, occupez-vous de notre pays. Les restes là qui veulent vous distraire, on va nous en occuper. C'est des distractions. Vous vous en foutez éperdument de qui que ce soit, y compris les États-Unis, s'ils ne mènent pas des politiques qui puissent aller dans l'intérêt de notre peuple, comme on a déterminé les 3 principes de coopération avec le Mali. Tous ceux qui ne respectent pas notre souveraineté, on ne va plus nous engager là-dedans. Personne non plus ne va nous dicter notre choix de partenariat et nos gouvernements ne vont jamais entreprendre ou bien prendre des décisions qui ne seront pas dans l'intérêt du peuple malien. Je pense que tous les Africains doivent adopter la même posture et mettre sur place des structures nécessaires pour le fonctionnement de tels principes et être prêts à les défendre, je répète encore, parce que la fauve est affamée. 500 ans, elle se nourrit sans menace dans les champs d'autrui, dans les troupeaux d'autrui. Et aujourd'hui, des chercheurs sans garde, aujourd'hui, commencent à apparaître des garde-fous. Et ils vont tout faire au début pour essayer de les éliminer. C'est au moment où ils sauront que c'est impossible qu'ils vont revenir à la raison, qu'ils vont quitter leurs rêves et ils vont commencer à faire la géo-adaptation, je répète, pour la troisième fois. Parce que c'est la seule issue pour l'Occident aujourd'hui de quitter la posture de guerre, d'imposition, de forcing et de reconnaître l'irréversibilité du basculement géopolitique aujourd'hui qui est en train de s'opérer en Afrique ou bien dans le monde entier et dont l'un des premiers signes c'est l'apparition et le développement du BRICS aujourd'hui, qui tous veulent adhérer. Donc le monde naturellement est devenu multipolaire et ce phénomène est instoppable.
Alors maintenant, j'aimerais bien poser quand même et vous questionner quelle est la vision, votre vision personnelle, mais aussi la vision de tous les Africains que vous connaissez des droits de l'homme. Parce que là, c'est devenu la mode pour faire passer quoi que ce soit. On fait miroiter, on lève le drapeau des droits de l'homme et en accusant souvent les pays où on a envie d'aller s'installer, de ne pas respecter les droits de l'homme et ainsi de suite. Bien. Mais moi, ma question, Monsieur Diabaté, les premiers droits de l'homme les plus vitaux sont le droit à la nourriture, à la santé, à l'éducation, à l'énergie, à l'eau, au logement décent et au travail. Sans ça, il n'y a même pas raison de parler même de politique ou d'économie. C'est une économie ou une politique publique qui ne va pas dans le sens d'assurer ces besoins de base et qui sont justement la plateforme de décollage vers autre chose de plus pointu, de plus technologique et de plus tout. On ne peut même pas parler d'existence d'État ou d'existence de politique d'État, même d'économie. Il n'y a pas d'économie quand on n'assure pas les besoins de la population. Or, en regardant la situation justement économique des pays africains, de la majorité en tout cas, nous ne pouvons pas dire que les institutions internationales ont réussi leur mission en Afrique. Alors, comment les États africains devraient-ils coopérer entre eux et avec des partenaires internationaux prêts à s'investir réellement et massivement dans le continent pour changer la donne ? Et puis, quel rôle voyez-vous à la zone de libre-échange, je ne sais pas, continentale africaine dans ce domaine?
Encore merci, M. Kamal, pour votre question. En fait, cette histoire des droits de l'homme, c'est une instrumentalisation aujourd'hui tellement flagrante de l'Occident qui se dit ridicule. Le ridicule ne tue plus. Et imaginez-vous les pays qui se sont développés dans les dos des nègres. Oui, je fais sciemment, j'utilise ces mots, je connais la connotation. Je ne dis pas noir des nègres, c'est comme ça. C'était dans ces temps-là. Et un pays colonisateur, un pays impérialiste, un pays esclavagiste, un pays jusqu'à présent où le racisme est étatique, dans certains, de façon cachée, mais c'est la norme. C'est eux qui vont quitter chez eux pour venir nous apprendre les droits de l'homme. M. Gamal, c'est insultant, c'est du sarcasme, c'est de l'ironie. Et d'ailleurs, en 2020, j'ai donné une interview au ministère de la Défense de mon pays, où j'ai dit au chef de la Major Générale, et à tout le pays et tous les Africains qui ont suivi l'interview, j'ai dit, monsieur le général, dès que vous allez commencer à prendre les décisions sur les terroristes commissionnés par l'Occident, vous savez, vous allez apprendre une nouvelle terminologie dans la géopolitique et puis dans comme le lexicon occidental. Ce sera les droits de l'homme. Et ne vous effrayez pas, ne soyez pas effrayés, ce sera le signe que vous êtes en train de gagner. Ce sera le signe que vous êtes en train de libérer vos pays, votre pays, vos peuples. Ce sera le signe que vous êtes en train de prendre le dessus. C'est la couverture pour l'Occident. Comme vous l'avez bel et bien mentionné, chaque fois quand ils ont besoin d'aller dans un pays, on les critique de ne pas respecter les droits de l'homme, on crée des insinuations pour, sous prétexte de quoi, et viennent soi-disant pour défendre...
Mais en même temps, les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Quand on n'a pas on fait en sorte de créer un système où on empêche les gens d'avoir même assez de nourriture, pour se nourrir correctement, ou un système de santé pour se soigner, des écoles pour éduquer leurs enfants, de l'eau, c'est la moindre des choses, de l'énergie, de l'électricité, et un logement et un travail, de quel droit de l'homme peut-on parler ?
Dans le contexte occidental, M. Gamal, on peut en parler, parce que nous, on n'avait pas la même définition du droit de l'homme que l'Occident. C'est l'Occident politique. Et pour eux, le droit de l'homme, c'est le droit de voler sans s'être inquiété et le droit absolu sur les ressources des Africains sans qu'il y ait même des critiques à leur endroit. D'ailleurs, je vous dis, dans les cabinets privés, c'est que les racistes occidentaux se disent « faites tout » et c'est pour cela, je vous assure, je réponds à ce que je dis, tout le système de Bretton Woods a été créé et la politique non écrite, non énoncée de l'Occident « faites tout pour soumettre l'Afrique ». Parce que le jour où l'Afrique va s'émanciper, le niveau de vie va tomber dans tous ces pays. C'est ce qu'ils se disent entre eux, entre politiciens. Et tout ce que l'Occident peut entreprendre, je veux que mes frères africains, globalement, sudistes, globalement, et africains en particulier, comprennent, quelle que soit la belle appellation de n'importe quelle entreprise ou forum ou campagne ou politique que l'Occident va nous amener, la finalité, c'est de tout faire pour qu'on ne puisse pas nous développer parce que leur richesse, leur opulence dépend de notre sous-développement. Voici l'équation. Et quoi que tu dises autre que ça, soit ça peut être par ignorance, ou bien par mauvaise volonté, ou bien par intérêt personnel, si tu en profites de cette position de l'Occident, comme beaucoup de nos premiers dirigeants africains qui ont vendu leur propre peuple. Et donc, ce que nous appelons aujourd'hui les droits fondamentaux de l'homme, dont vous venez de m'énumérer, ça, l'Occident s'en fiche éperdument. D'ailleurs, plus un pays africain manque de l'électricité, manque à manger, de quoi manger, ou bien de travail, plus la France est rassurée, plus les exploitants sont rassurés. Parce que d'ailleurs, il y a un adage dans le lexicon ancien colonial français qui dit que il faut maintenir les Africains tout le temps dans les besoins, surtout dans les besoins vitaux. Ils ne doivent même pas manger à leur faim, parce que quelqu'un d'affamé s'en fiche de l'honneur, il s'en fiche du quoi que ce soit, et il n'a besoin que de survivre. Donc, un esclave affamé, il n'a besoin que de trouver à manger. Et on ne va jamais lui donner à manger à sa satisfaction. Parce que tant que l'homme est satisfait, il a à manger, et il est en bonne santé. Et il fait de l'économie, il va commencer à demander ses droits. C'est cette politique exactement que nos spécialistes africains se gênent souvent de dire ouvertement. Et toute la politique de l'Occident, depuis que l'Occident a pris le dessus sur le reste du monde, ne vise que cela. Donc que cela ne nous étonne pas, surtout nous les pays formellement colonisés, soumis, esclavagés. La politique, c'est de tout faire pour qu'on ne parvienne pas à nous développer. Et le premier signe du sous-développement, c'est ce que vous venez d'énumérer.
D'accord.
C'est la faim, le manque à manger, le manque de santé, le mauvais environnement. Oui, ils vont parler. Ils vont joliment toujours parler. Mais la politique réelle qu'ils mènent vise toujours à pérenniser ces situations pitoyables chez nous. C'est ce que nous, les Africains, devons comprendre finalement et comprendre que si le lion, M. Gamal, si le lion aura pitié du gibier, qu'est-ce qui va arriver ? Il va mourir de faim.
Bien. Alors, pour juste embrayer sur ce que vous venez de dire, M. Diabaté, justement pour quand même approfondir encore cette question-là. Donc, si l'on peut justement avancer cette question des droits de l'homme et tout, en tout cas pour les Africains de tous les pays du Sud, les droits fondamentaux sont les premiers à défendre. Alors, qu'en est-il de la participation de 16 pays africains à la monnaie toujours contrôlée par la France, le franc CFA, qui est reconnu par tous les experts, notamment africains, en sociétés africaines, qu'il est l'obstacle majeur au développement et à l'épanouissement des pays africains. Comment peut-on parler de droit de l'homme, de droit du citoyen quand un peuple n'a pas de souveraineté sur sa monnaie?
Et Gamal venait de confirmer ce que je viens de dire tout de suite, encore davantage, c'est système colonial, c'est système inhumain. C'est ce système d'esclavage monétaire qui s'appelle le franc CFA. D'ailleurs, si je n'ai pas à l'appeler le franc des colonies françaises d'Afrique, mais après on a dit le franc de la communauté d'Afrique. Et quelle que soit l'appellation, comme j'ai dit, le fond reste le même. C'est devait être le premier scandale africain mondial. Le système franc CFA, c'est du crime. Monsieur Gama, pour rappel, pour ceux que des jeunes auditeurs peut-être qui ne savent pas, avant, je crois, 75, 72, 75, et toutes les recettes d'exportation en devises qui émanaient ces 16 pays devaient aller directement au trésor français comme propriété de la France. Vous allez me demander pour quelles raisons? Rien. Juste parce qu'on était des pays esclavagés par la France. Je ne dis même pas colonisés. C'est après, les choses ont évolué, c'est devenu 75%. Après, maintenant, on dit 50-50. Mais, en même temps, il y a des institutions non écrites. On est de ces 50%-là qui devaient vous revenir. Plus vous en déposez, plus la France va vous faire des faveurs. Donc, on va dire 25% pour le fonds de roulement et le reste 25% parfois même pour l'avoir. Il faut présenter des documents au trésor français qui vont justifier que vous avez besoin de ces fonds pour votre propre art. Mais écoutez, Gamal, c'est le comble de l'étourdissement. C'est le comble de l'ironie, c'est-à-dire l'Occident se moque de nous littéralement. Comme vous l'avez dit, le premier droit d'un pays, d'ailleurs j'ai dit à cette même presse conférence à la Défense, j'ai dit que nous nous mentons quand nous appelons des pays indépendants. Parce que le premier critère de l'indépendance d'un pays, l'un des premiers critères, à part la capacité d'assurer ses frontières, c'est la possession d'avoir l'indépendance sur ta monnaie. Parce que c'est l'instrument qui te donne. Quelqu'un qui ne contrôle pas sa monnaie ne peut pas gérer son économie, monsieur.
Oui, et donc il n'est pas souverain.
C'est impossible. C'est le vrai esclavage. Ce n'est même pas les tortures physiques. Mais c'est les conditions que la France faisait vivre nos pays. C'est ça l'esclavage moderne, réel. Et tant que quoi qu'on mène comme lutte, tant que le franc CFA existe, on se leurre, on est esclave, on est colonisé. Et je suis sûr, M. Kamal, que très bientôt, on va se livrer de ces francs CFA. Et comme le basculement géopolitique global, c'est le fait de se désengager du franc CFA, c'est quelque chose d'inévitable et irréversible, je le vois déjà venir.
Dans ce cas, M. Diabaté, comment voyez-vous le rôle, maintenant revenons à la question des entreprises et des droits de l'homme, et des entreprises privées africaines dans la dynamique de développement en Afrique, centrée en priorité sur les objectifs d'assurer les besoins vitaux des populations, à savoir la nourriture, la santé, l'éducation, l'eau, le logement et le travail.
C'est quand même ce système, cette situation est très complexe. Si vous prenez la banque, par exemple, qui doit financer les entreprises pour qu'ils puissent réaliser, pour qu'ils puissent s'épanouir, comme ça c'est à l'Occident. Parfois, les taux directeurs vont jusqu'à zéro. Il fait même un moment aux États-Unis. C'était même à moins. C'est-à-dire qu'il prend des crédits, on te donne encore de l'argent pour que tu prennes. Par ailleurs, chez nous ici, des banques n'existent pas. Dans le terme économique du mot, il n'y a pas de banque chez nous. Parce qu'une entreprise qui veut se développer aux dépens des banques, tu t'endettes à jamais, tu ne pourras jamais s'en sortir. Je vous donne un exemple. Chez nous, il n'y a pas de microfinance. Il y a le nom, mais il n'y a pas de microfinance. Très souvent, c'est toujours contrôlé par là-bas. C'est le système d'endettement de la population pour utiliser, en fin de compte, ce système pour encore en esclavager la population. Pourquoi ? Pour chanter nos gouvernements. Vous allez dans une banque chez nous, surtout dans le système de chiffrement. On va dire que, on va vous donner un crédit, un petit exemple, à 9% ou bien à 10%. Mais le système de corruption, le système de pourcentage que vous devez payer pour, par exemple, les experts qui doivent aller visiter les cochons et tous ceux qui sont suivis, vous allez voir que vous vous retrouvez parfois jusque vers 20%. Imaginez, dans les conditions normales, 20% au moment même que vous prenez votre crédit. Et vous devez rembourser et ils ne donnent jamais des délais raisonnables, des temps raisonnables. Pour ça. Donc, à cause de ça, au lieu qu'il y ait de l'entrepreneuriat, et je dis ça spécialement pour que nos dirigeants comprennent ça et qu'ils sentent ce système. Sinon, on a beau crier, on s'est beau lérer, M. Kamal, mais si c'est le développement réel ne va jamais désamorcer dans nos régions. Jamais, c'est impossible. C'est comme la mort et la vie. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut créer des conditions réelles pour qu'il y ait le flux financier qui puisse donner un boost aux activités économiques. C'est-à-dire, le secteur réel de l'économie ne peut pas être financé. À l'Occident, par exemple, ici, pour prendre un crédit de 1 milliard, il faut avoir une possession, un bien qui vaut 2 milliards. Mais quelqu'un qui a 2 milliards déjà pour aller prendre un crédit là-bas, sûrement les Africains ne comprennent pas ça. Vous comprenez? Mais à l'Occident, et avec même ces histoires de subventions, mais c'est des centaines de milliards comme les États-Unis viennent de faire, des Patriotic Act Against the Inflation ou quelque chose comme ça là. Et ils ont ces problèmes avec l'Occident. Nous, on n'a pas ces capacités avec l'Union européenne. Comme concurrence déloyale. Mais nous, on n'a pas ces moyens parce qu'on ne contrôle pas nos finances. Nous, on n'a pas les moyens, par exemple, quand le besoin est là, un peu jouer à l'inflation au cours de nos monnaies pour faciliter les exportations et faire venir, par exemple, pour booster les activités économiques.
Oui, et de ce point de vue, je rappelle que le franc CFA et le taux de change est imposé par la Banque de France. Il est fixe. Il ne bouge jamais, sauf si elle décide de changer. Et il est fixé actuellement à 649, si je ne me trompe pas, francs CFA pour 1 euro. Bien, alors une dernière question, hein, Monsieur Diabaté. L'un des sujets fondamentaux traités lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, qui a vu l'arrivée de deux nouveaux pays africains dans l'organisation, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'industrialisation de l'Afrique et son équipement en infrastructures de transport et de logistique. Et le tout avec une possibilité d'échange et de commerce dans les monnaies nationales. Alors, comment voyez-vous la chose et peut-on dire que les entreprises privées africaines ont une chance de se projeter dans le futur en exigeant des partenaires des BRICS, je dis bien en exigeant des partenaires des BRICS, les transferts de technologies, la transformation locale des matières premières et la formation pointue des ingénieurs et des techniciens dans tous les secteurs, notamment l'agriculture, l'agroalimentaire, le médicament et la santé. En 2 minutes, s'il vous plaît.
Monsieur Kamal, c'est exactement la loi qui est en train de signer hier. Dans l'énoncé, il est écrit avec les mêmes mots exactement que vous venez de citer. Exactement. On devrait vous lire le troisième paragraphe de ce document. C'est-à-dire, on a décidé maintenant que tout ce qui s'est produit dans le domaine de l'agriculture, ou bien qu'il soit du sous-sol malien ou bien sur le sol malien, doit être transformé au préalable chez nous pour que nous, pays producteurs ou bien propriétaires de ces ressources, profitons de la plus-value.
C'est important.
Aucun pays ne va se développer quand vous ne faites que vendre la matière première à l'état nature. Vous avez beau être riche, vous n'allez jamais vous développer tant que vous ne participez pas au partage, comment on dit ça, de la plus-value.
Ben, je vous remercie. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Adama Diabaté, je vous remercie pour cet éclairage. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
Merci beaucoup.
C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche proposée
par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.